Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. La maison Pignal, installée depuis quelques printemps déjà à Livron-sur-Drôme, la maison Pignal tient lieu de résidence artistique, de carrefour d'expression artistique et culturelle. Et pour nous présenter cette maison, la responsable de la maison Pignal, Anne Gruel.
La maison Pignal a été rachetée par la mairie il y a assez longtemps. Au départ, il n'y avait pas de projet, c'était juste l'opportunité de garder un beau bâtiment et surtout un magnifique parc au sein de la collectivité. Et puis voilà, le service culturel est arrivé en 2008 et il y a une dynamique un petit peu nouvelle avec l'école de musique aussi qui est devenue en fait intercommunale, qui n'est plus qui était associative à l'origine, hein, mais qui est devenue collectivité publique et qui a aussi installé ces bureaux-là. Du coup, c'est vrai qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'est installée dans cette maison depuis 2008 et l'ouverture du café culturel a participé aussi à cette dynamique-là. Alors, on n'a pas vraiment un public régulier dans le sens où dans la mesure où on fait des spectacles très différents et très variés, le public tourne beaucoup. Il y a ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment le théâtre, etc. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour le jeune public, mais qui ne viennent pas pour d'autres choses. Mais en même temps, on a un public qui se reconnaît là-dedans, c'est-à-dire qui sait que quand on va proposer quelque chose, ils vont y trouver leur compte. Il y a des choses qui seront un petit peu nouvelles. Ils vont venir prendre du plaisir à découvrir des choses un peu différentes, sur des choses où il se reconnaît, où il apprécie. Et après, ça va être peut-être le type de spectacle, peut-être le type d'accueil aussi. C'est vrai que le café culturel, c'est une toute petite salle avec une proximité qu'on peut avoir avec les artistes, qu'on a nulle part ailleurs. Et ça peut attirer des gens qui en fait, vont pas forcément aimer aller au spectacle dans des salles avec une autre envergure ou... Et puis après, il y a aussi une histoire de tarifs. De toute façon, ça aussi, ça va jouer. Le prix d'entrée, pour donner un exemple, il est à 5 euros en plein tarif et 3 euros en tarif réduit. Alors, la maison Pignal, c'est un grand bâtiment dans lequel on a donc les services administratifs du service culturel et de l'école de musique. Et après, un certain nombre de salles. Donc, des salles qui sont des salles de cours pour l'école de musique et dont deux salles sont équipées pour accueillir des groupes amateurs. Actuellement, on a à peu près 7 groupes amateurs qui répètent en soirée ou en week-end. On a trois artistes, enfin, ou trois entités en résidence. La compagnie Animotion, qui est une compagnie de théâtre qui fait du théâtre, plutôt du théâtre gestuel, qui est aussi beaucoup orienté vers le public handicapé, notamment malentendant. On a les créations en carton avec l'entreprise Créazoé, donc qui est association et entreprise, donc voilà, qui fabrique, qui accueille des gens pour former et qui fait aussi du décor de théâtre en lien avec les autres résidents. Hein, qui fait des choses, il y a des liens qui se créent entre eux. Et la troisième résidente à l'heure actuelle est une photographe, c'est Myriam Vorep. Une programmation qui est faite de 12 spectacles. Donc, en gros, la saison culturelle du café culturel lui-même, elle est de octobre à avril. Elle est composée de 2 spectacles par mois. Un le deuxième samedi de chaque mois, qui est un spectacle tout public. Et un le troisième dimanche du mois, à 16h.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel opus du magazine Biotope, la Biovallée en pratique, diffusée sur Radio Méga, Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Une émission qui vous invite à découvrir un certain nombre des bonnes initiatives du territoire. Et ce jour, nous avons le plaisir d'avoir en bord de Drôme, à Saillant, Sean O'Neill, brasseur dans l'URL La Tuilière, arrivé dans la vallée par le biais de l'agriculture. Et puis depuis 2009, devenu brasseur à temps plein. Salut Sean.
Ouais, bonjour.
Merci de prendre ces quelques minutes avec nous pour nous parler un petit peu d'une activité qui a l'air de se développer de plus en plus sur la vallée de la Drôme, qui est l'activité de brasseur.
Je commence un peu dans cueillir les pommes, après le raisin, et petit à petit on installe un peu. Je suis venu chef d'exploitation, on a fait un peu la polyculture, le céréales, un peu le fourrage pour faire une belle rotation. Et moi, j'ai l'envie d'une bonne bière. Je trouvais pas quelque chose qui plaît. Je veux faire moi-même. Avec l'orge que j'ai produit sur la ferme, on a essayé à malter, j'ai fait une bière et c'était un échec monumental, mais c'était imbuvable. Et je ne peux pas rester sur un échec. Et avec les années, un peu les recherches et tout, on a amélioré la façon de faire la bière, le processus, jusqu'à arriver aujourd'hui où c'est pas la bière parfaite, mais c'est une bière qui plaît à moi et à plusieurs personnes.
Tu te mets un peu à faire des recherches pour savoir un petit peu quelles sont les méthodes alchimiques pour arriver à une bière buvable, du coup?
Oui, j'ai fait plusieurs formations à la AFBM, c'est l'Institut français de boissons et malteries. C'était une vraie formation professionnelle. Après, c'est dans la brasserie. J'ai passé pas mal de temps dans la petite brasserie anglaise, les brasseries en Californie et aussi en France, dans la brasserie française. Et dans une autre vie, j'ai fait les études en chimie et biochimie sur le processus pour faire le vrai développement. C'est un peu mon métier à l'époque. Petit à petit, on apprend de faire une très très bonne bière.
Alors, quelles sont les difficultés finalement quand on veut fabriquer une bière? Quelles ont été les problématiques dans lesquelles tu t'es retrouvé?
Ils sont nombreux. Le savoir-faire, c'est la première chose. On a beaucoup de brasseurs qui sont commencés dans les cuisines. On fait les essais, et déjà premier savoir-faire. Après, la matière première. L'eau, c'est très important. Les bières, ça se fait plutôt avec les céréales maltais. Ces matières premières, c'est pas toujours facile de trouver les bonnes qualités. Et moi, tout au début, j'ai fait un choix à faire une bière bio. Je trouve pour moi, c'est important, mais aussi pour les générations, l'avenir, avec un respect pour l'environnement et les gens autour, les gens qui travaillent dedans, les gens qui ont grandi dans cet environnement. La matière première biologique, c'est vraiment pas facile à trouver. Au niveau équipement, c'est pareil, c'est un produit alimentaire, il faut aller à hauteur, tout est propre. C'est un produit qui sont très sensibles à la contamination microbienne. Il faut vraiment faire quelque chose qui sont stérile, qui sont propres à la consommation. L'équipement, on travaille souvent avec les choses en inox. On a pas mal de challenges.
Et après, en termes de vraiment de développement économique,
c'est passé par une étude de marché. Bon, après, ça fait un peu peur, les investissements qui sont à faire, une trésorerie pour faire un bel stock pour passer l'été. Comme on voit les chiffres, ça commence à refroidir beaucoup.
Donne-nous une idée, ça représente combien?
Un bâtiment, si on peut trouver un bâtiment loué, c'est fabuleux, mais à l'époque, c'était encore le grand boom. J'étais obligé à construire moi-même un bâtiment. Un bâtiment, c'est 60, voire 80 000 euros. On ajoute tout l'équipement en inox, c'est au moins 15, 20, 25 000 euros de l'équipement inox. La matière première, ça a évolué très très vite et j'ai rendu compte que j'ai besoin d'un petit coup de main là. Et j'ai passé à voir les communautés communes essayant et ça m'a dit tiens, on a peut-être un bon plan qui peut aider là. C'est Sophie Fauquin, l'IVDD Oust, et c'est vraiment avec cette association où le business plan, l'étude de marché, ça a évolué. On a passé un bon 6 mois à faire beaucoup de chiffres et à la fin de ça, j'avais la chance de présenter ma projet et c'était accepté en commission. Ces associations, c'est vraiment ouvert beaucoup de portes. Et on a plusieurs commerces locaux qui sont ouverts les portes. Mais ça, c'est vraiment, c'était un encouragement énorme. C'est vraiment démarrer le projet.
Alors quand tu démarres, il y a combien de brasseurs dans le coin?
J'ai vraiment commencé en 2006. Et à l'époque, je crois, on était trois brasseurs. Aujourd'hui, je crois, on est 13, peut-être même 14.
Et du coup, en termes de filière, ton produit, il se fait connaître par quel biais? Tu me parlais des marchés.
On n'a rien mieux pour vendre qu'un brasseur qui est là, qui ouvre une bouteille et fait déguster
le consommateur.
Et le marché, là, j'ai beaucoup de chance où je peux ouvrir quelques bouteilles et faire déguster. Ça, parfois, les résultats, très étonnants. Moi, j'adore ce côté-là de le métier, c'est partager ces choses. Après, ben, je travaille un peu avec les autres distributeurs où parfois c'est moi qui allais sur place faire une petite dégustation. Ou c'est par exemple les cavistes. On a quelques restaurants qui prennent pas que les miens, mais plusieurs bières artisanales. Et on a pas mal de magasins qui vendent le produit local. Et là, on arrive à un côté clé pour les brasseurs et pour tout le monde. C'est les produits locaux, produits localement. Moi, j'y rêve toujours à faire une bière avec les produits, la matière première qui sont produits localement. L'eau, on n'a pas trop de soucis. Si on ne gaspille pas trop, ça va continuer bien. Les céréales, mais ici dans le Drôme, on produit les céréales de très très bonne qualité. Et récemment, on a un projet pour un malterie artisanale. C'est fait juste à l'autre côté de la Rhône. Et là, c'est vraiment un super pas en avant pour nous, les brasseurs. Jusque-là, on est obligé à provisionner beaucoup plus loin. Et c'est pas forcément la meilleure solution. Après, les autres ingrédients dans la bière, on a souvent le houblon. Ça donne un peu plus de goût, un côté amérisant, aussi les arômes. Et j'ai travaillé un petit peu avec les agriculteurs locaux pour voir si on peut vraiment produire le houblon local. En fait, tout pousse localement. Il suffit juste d'ouvrir un peu les yeux, avoir l'imagination et saisir saisir les chances.
Alors aujourd'hui, quel produit proposes-tu et dans quelle quantité?
On a une gamme de 4 bières classiques. C'est une chose qu'on trouve partout en France, même ailleurs. C'est la bière blanche, la bière blonde, la bière ambrée, la bière brune. C'est vraiment les 4 bières de base. À ça, j'ajoute une bière, c'est une IPA. C'est une bière qui... Ça se dit la India Pale Ale. C'est une bière, les origines en Angleterre qui est transportée en Inde. C'est une autre époque, mais c'est une bière qui sent beaucoup plus typée, beaucoup plus amère, vraiment du goût de houblon. Aussi, on a une bière qui est un petit peu dans la tradition de la bière belge, avec beaucoup de malt torréfié. Un certain degré d'alcool et un peu les épices aussi. Et aussi pour Noël, on fait une belle petite bière avec le joli habillage et tout. Ça fait un joli cadeau pour quelqu'un. Ça fait découvrir un peu la brasserie, les brasseries artisanales et même la région.
D'autres perspectives pour la tuilière à court, moyen ou long terme?
Ben, il faut absolument trouver la voie où je peux créer les emplois. Un coup de main, c'est fabuleux. À créer les emplois, c'est vraiment super ça. Comme j'y peux, ça va être fait.
Merci Sean.
Ben, merci beaucoup.
features of a man. Staring at a future in the creases of my hand, it reads like a final letter. I'm leaving for my fam, but it's written in language they would never understand. And late repenting, never deviating from a plan. I drive by, headed for the valley of the dam. The wheels spin, I'm looking for a sacrificial lamb. The road tactics like a soldier out in the Sudan. Listen, was this a matter of flesh and blood? Yes, it was. Does it matter who win and lose? Yes, it does. It ain't about the most blessed love. When you return to the essence, what is it back to the essence of? Greatness I wasn't in the presence of, cause you was fake and never measured up. You just a nigga on this regular, but how far am I ahead of ya? It just as easily could have been me instead of ya.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Évoquons aujourd'hui une association Malteur Éco, une malterie artisanale, solidaire et coopérative, basée du côté de Beauchastel. Créée en 2012 sous le statut d'association, Malteur Éco a pour vocation de devenir une société coopérative. Elle souhaite en effet permettre à chaque acteur de la filière, producteur, brasseur, consommateur, de s'exprimer à travers l'animation de la filière locale. Pour nous parler de cette association Malteur Éco, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
D'abord, je te laisse te présenter. Quelle est ta place, toi, dans Malteur Éco et quelle est la genèse du projet ?
Oui, donc Guillaume Bourdon, je suis l'un des trois fondateurs de l'association Malteur Éco. Ma place dans le projet, c'est de m'occuper entre autres de la ressource en orge pour produire le malt qui servira aux brasseurs. Et je m'occupe aussi d'une partie de la production et des ressources humaines de l'association. Donc le projet est né en juin 2011 suite à une rencontre avec un brasseur de Rhône-Alpes dans le cadre d'un week-end touristique, ce qu'il y a de plus banal. Au cours de la discussion, on est venu à évoquer la ressource en matières premières notamment. Et le brasseur nous expliquait que le malt justement était un gros souci en Rhône-Alpes puisqu'il provenait d'Allemagne ou de Belgique. Il n'y avait pas de malterie locale et que pas mal de brasseurs justement étaient en recherche de porteurs de projets parce que c'est un métier à part, ça nécessite des investissements et de l'implication et aucun brasseur ne se sentait de devenir malteur à la place de brasseur.
Alors on est tous des grands consommateurs de bière par ici, mais pour autant on ne connaît pas encore vraiment la vocation pour certains de malteur.
Oui.
C'est quoi ?
Pour répondre à cette question, il faut déjà savoir ce qu'il y a dans une bière. En gros, la bière va se composer d'environ 70% d'eau, principalement, 25 à 30% de malt, je vais en parler après du malt, de 5% de houblon à peu près, et d'un petit peu de levure. Alors là, je vous donne les 60%, 70%. La quantité de malt va définir le taux d'alcool. Donc c'est pour ça que je vous donne les grandes fourchettes. Et du coup, le malt, qu'est-ce que c'est ? C'est une céréale, principalement de l'orge, qui a été mise à germer, puis à sécher et cuire. C'est tout simple, et nous, c'est ce que nous faisons en tant que malteur. Donc le malteur, c'est l'opérateur qui transforme. Comme un brasseur va faire de la bière, le malteur fait du malt. La recherche un petit peu autour de ce projet nous a fait découvrir un monde vraiment très riche, puisqu'il y a à peu près 500 brasseries en France, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et une grande diversité de façons de faire, de savoir-faire et de philosophie derrière. La plupart des micro-brasseries, donc vraiment qui font des petits volumes, avaient pris l'habitude de se fournir en Allemagne et en Belgique, puisque jusqu'il n'y a pas très longtemps, les malteries industrielles françaises avaient des volumes minimums de livraison qui étaient pas du tout adaptés aux micro-brasseurs. Donc petit à petit, en fait, les brasseurs se sont adaptés en allant à l'étranger et ont du mal un peu à changer leurs habitudes par rapport à ça. Du coup, à partir de là, on s'est dit, il va falloir qu'on travaille autrement. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire de la coopération, justement. C'est-à-dire de faire coopérer autour du malt, qui est un peu l'élément principal pour faire de la bière. Faire coopérer les agriculteurs, les malteurs, bien sûr, et aussi les brasseurs. Pour sortir des systèmes simplement de marchandisation du grain, de tout, de la consommation. Donc on s'est dit, si on coopère sur les volumes de production et sur les prix, on pourrait arriver à quelque chose de pertinent qui permettrait à tout le monde d'avoir un revenu décent et de stabiliser et développer suffisamment les activités. Donc on a mis en place une enquête papier après avoir déjà défini les grandes valeurs qu'on souhaitait. Donc notamment, on voulait travailler sur un modèle coopératif. On trouvait important de valoriser, quitte à faire du local et de l'artisanal, autant aller sur de l'agriculture biologique. Voilà, on est arrivé déjà avec des premières valeurs qu'on souhaitait défendre, mais aussi soumettre aux brasseurs. Donc on a lancé une enquête papier et internet auprès des 70 brasseurs de l'époque, qui étaient en région Rhône-Alpes, à laquelle 34 d'entre eux ont répondu, plus quelques-uns qu'on a eu au téléphone, qui n'ont pas répondu directement à l'enquête, mais qui nous ont donné un avis. Et globalement, le projet de faire une malterie artisanale, locale, pourquoi pas coopérative et pourquoi pas en bio, a été plébiscité par tout le monde. Et là, il s'est avéré que les brasseurs attendaient du malt, en fait. Nos petites décorations de coopération, bio, etc., pourquoi pas. Mais ce qui les intéresse, c'était le malt, en fait. C'était vraiment une grosse attente de ça. Donc à partir de là, on s'est dit, il y a le feu vert aussi, on va pouvoir se lancer, quoi. Et la deuxième étape, ça a été, une fois qu'on a été installé sur le territoire, qui a été de tester, nous, ce qu'on avait appris en formation, en lisant des livres, en faisant des recherches sur Internet, et vraiment le calquer à la pratique et puis aussi au fonctionnement des brasseurs. Donc pour ça, on a mis en place notamment une phase de test qui a eu lieu de mai en juillet dernier auprès de 5 brasseries, dont une partie en Drôme et en Ardèche, qui ont joué le jeu de tester nos premiers cycles de malt, d'en faire une bière, et de nous faire des retours à la fois sur les qualités organoleptiques de la bière, mais aussi sur la façon dont ils ont utilisé le produit. Est-ce que le malt était suffisamment propre, le séchage était hétérogène, enfin...
Est-ce que vous avez été soutenu dans l'idée de ce projet ?
Alors, on l'a fait pareil en plusieurs phases, on aime bien, on aime bien les phases. On a commencé tout d'abord par la phase de démarrage qui était mettre en place les tests, parce qu'il fallait acheter de l'orge, il fallait acheter des machines, des premiers équipements, louer un bâtiment, etc. Donc là, on a commencé par, on va appeler ça du financement solidaire, où on a invité notre réseau notamment à mettre des parts au fonds associatif avec droit de reprise, donc ils pourront récupérer d'ici l'année prochaine, je crois, petit à petit. Et aussi, on a fait de la prévente des bières test. Ça, c'était un truc important. Et en fait, cet ensemble a permis vraiment de collecter suffisamment de fonds pour démarrer l'activité, acheter ses machines, acheter l'orge, etc. Donc ça, c'était une première phase importante. En parallèle de ça, il fallait qu'on puisse assurer les investissements et la mise en place de la production pour l'automne, et puis aussi l'achat de l'orge qu'on avait commandé auprès des coopératives et des agriculteurs. Donc ça s'est passé notamment par une démarche auprès de France Active, donc l'IEDV, et ainsi qu'un emprunt bancaire tout à fait classique pour une entreprise. Et en parallèle de ça, il fallait aussi qu'on puisse assurer le développement de la structure, notamment compenser le fait qu'au départ, on n'allait pas être rentable, puisqu'on n'avait pas suffisamment de ressources en orge, pas suffisamment de capacité de production, et pas suffisamment de débouchés aussi. Une activité nouvelle sur un territoire, il faut aussi pouvoir la faire connaître et la rendre crédible. Donc là, pour ça, on a fait appel notamment à la région pour nous aider à financer la structuration de la filière et la mise en place de Malteur Eco. En parallèle de ça, on trouvait intéressant de pouvoir permettre à la filière de se structurer en Rhône-Alpes, mais aussi de rendre le projet reproductible. Notamment parce que depuis qu'on était arrivé en septembre 2012, on avait été contacté par plusieurs régions, des brasseurs qui nous disaient « Bonjour, on va faire une malterie, comment on fait ?» Et courte expérience qu'on avait, nous faisait leur répondre qu'avant de commencer à acheter des machines ou de penser à les construire, il fallait aussi structurer la filière, avoir des agriculteurs intéressés, la logistique pour stocker les grains et aussi un groupe suffisamment important de brasseurs pour acheter ce malt et aussi bien sûr quelqu'un pour le faire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a répondu à un appel à projet porté par l'Agence Bio, donc l'agence du ministère de l'Environnement, sur un fonds qui s'appelle le Fonds Avenir Bio pour structurer des filières biologiques, pour justement mettre en place notamment une filière brassicole biologique en Languedoc-Roussillon, et ce qu'on est en train de faire aussi en Auvergne. On a obtenu aussi un financement de la direction du travail, la DIRECT, via le FSE, pour mener une étude de faisabilité pendant le printemps 2014, pour voir justement si faire du malt artisanalement, c'était quelque chose qui était pertinent pour aider des salariés en difficulté pour trouver un emploi par la suite. Pas pour faire des malteurs, mais bien pour développer des compétences transférables et éventuellement accéder à une formation, à un emploi par la suite. On se rend compte là avec les premières ventes, on a fourni 25 brasseries à peu près maintenant, qui a une partie qui sont des microbrasseurs biologiques, mais il y a aussi une grande partie qui sont des brasseurs artisanaux conventionnels, pour qui le local et l'artisanal est un enjeu fort. Ils ne sont pas spécialement sensibles au biologique, mais pour qui c'est quelque chose qui semble tout à fait logique. Autant pour Rhône-Alpes, en fait, on achète nous-mêmes l'orge de Rhône-Alpes, on le transforme et on revend le malt au brasseur. Pour Auvergne-Languedoc-Roussillon et PACA, on est plus sur un système qu'on appelle le maltage à façon, c'est-à-dire qu'on va accompagner la mise en place de structures régionales, donc un producteur ou des producteurs d'orge, des brasseurs intéressés, qui vont se mettre d'accord sur un volume et un prix de production, nous envoyer leur orge, et on va leur transformer sur mesure et leur faire repartir.
Alors c'est un petit peu la naissance d'un projet qui lui aussi continue de germer. Alors comment se décompose ton ou votre travail? Vous êtes trois associés, c'est ça?
Donc au niveau de la production, Baptiste et moi sommes à tiers temps sur la production de malt en tant que telle, donc qui va de la réception de l'orge, la transformation jusqu'à la mise en sac et la préparation de la livraison. Et pour cela, on est aidé de Anthony et Arnaud, qui sont deux jeunes qu'on a embauchés en emploi d'avenir en CUICAE, pour nous accompagner dessus, qui ont un projet sur lequel on les aide à avancer, qui sont pas du tout en lien avec la malterie. Il y en a un qui veut être cordonnier, l'autre qui veut bosser dans les espaces verts. Mais voilà, on les accompagne dessus sur un dixième de leur temps, et le reste du temps, ils sont sur la production. À côté de ça, il y a Pascal, qui est en CUICAE aussi, qui a un projet, elle, de devenir assistante de direction, et qui, ça tombe bien, nous aide sur la partie administrative et animation du site internet. Donc elle se professionnalise en même temps qu'elle travaille, c'est plutôt intéressant pour nous. Et enfin, nous accueillons aussi depuis novembre une apprentie, Constance, qui est en licence pro agriculture biologique conseil et développement, qui accompagne Marie sur la mise en place de la filière, notamment des journées locales dont je parlerai peut-être tout à l'heure.
On aborde la dernière ligne droite, qui sont les perspectives et les projets et éventuellement les moyens de vous rencontrer.
Pareil, de plusieurs ordres hein, pour changer. La grande étape, ça va être à partir de la fin de l'année ou début 2015 et l'évolution coopérative, société coopérative d'intérêt collectif. Ce qui fait que les brasseurs qui sont actuellement adhérents à l'association ou les agriculteurs vont devenir, enfin seront invités en tout cas, à devenir sociétaires de la coopérative. La dimension importante aussi, ce serait qu'il est possible qu'on évolue d'ici la fin de l'année en entreprise d'insertion. Et l'autre point aussi, c'est l'augmentation de la production. Là actuellement, on vise à peu près 100 tonnes d'orge transformées dans l'année, pour à peu près 80 tonnes de malt. L'année prochaine, on est plus sur un volume de 300 et quelques tonnes d'orge, donc on va tripler la production.
Eh ben merci Guillaume.
De rien, merci à vous. Au revoir.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Top. Un programme soutenu par BioValley.